milieu de nous et qu'il va encore nous communiquer quelque chose. Cette prédication, c'est un petit peu comme si c'était un résumé du message de Malachie. Et quand on le lit, quand on l'étudie, quand on le médite, on se rend compte que c'est tellement actuel pour notre génération. En particulier, Malachie insiste sur plusieurs paroles qui sont dites par le peuple et plusieurs paroles qui sont dites par Dieu. Il y a comme une opposition entre ce que le peuple est en train de dire et ce que Dieu est en train de dire. Et en tout cas, on voit le désir du Seigneur au travers de son prophète que ce peuple-là qui dit toutes sortes de choses puisse revenir dans la faveur de Dieu. C'était vendredi qu'on voyait encore un homme qui a eu la faveur de Dieu sur sa vue, Noé. Et est-ce que vous voulez vous-même vivre cette faveur de Dieu sur votre vie, dans votre génération? C'est quelque chose de possible, mais voyons les conseils qui nous sont donnés. Avant de rentrer pleinement dans ces passages, je repensais à cette personne qui suivait les instructions pour le baptême dans une autre église. Et on était venu à parler du mariage. Et alors qu'on parlait de ce verset, que le mariage soit honoré de tous, vous connaissez dans Hébreux chapitre 13, il est dit ceci, et le lit conjugal exempt de souillure, et la jeune fille, elle disait, oui, c'est vrai, c'est ce que dit la Bible, mais je pense que moi, à mon avis, c'est bien quand même de vivre ensemble avant le mariage, comme ça on sait si on est compatible ou pas. Et donc d'un côté, elle disait que la parole de Dieu, elle était bien, et de l'autre, elle disait, voilà, mais moi je dis ça. Et on se trouve dans un monde, malheureusement, où c'est exactement ce qui se passe. Les gens, ils ont plein d'avis sur plein de choses, mais nous voulons savoir ce que Dieu dit de certaines choses. Et il y a des vérités qui sont données par Dieu dans ce livre de Malachie. La première de ces vérités, elle se trouve au tout début, chapitre 1, verset 1er, « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. » Voilà la vérité. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et voilà ce que répond le peuple. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Amen. Première vérité, la plus belle et la plus grande de toutes, qu'on a besoin de se rappeler, je crois, tous les jours et même toutes les secondes de notre vie. Dieu nous a aimés. Dieu nous aime. Et Dieu aimait le peuple d'Israël malgré son péché, malgré son éloignement de la présence de Dieu. Dieu l'aimait de tout son cœur. Et il voulait lui faire du bien. Dieu a prouvé son amour envers nous en donnant son fils Jésus. C'est ce que nous dit la parole. Et tous les jours de notre vie, nous voulons nous souvenir que si le sang de Jésus a coulé sur la croix, oui, c'était pour le péché, oui, c'était pour la maladie, oui, c'était pour aussi nous donner la force de traverser toutes les situations que nous pouvons rencontrer sur cette terre. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ sur la croix et que maintenant nous avons une vie nouvelle. Et le Seigneur veut nous donner de manifester dans notre vie cette vie nouvelle qu'il nous a donnée. Le problème de ce peuple, il est flagrant. Il doutait de l'amour de Dieu. Et des fois, on peut se retrouver, pour X raisons, à douter que le Seigneur nous aime, à penser qu'il n'a plus son regard sur nous, à penser qu'il est loin de nous, alors qu'il est tout près. Mais c'est les circonstances qui font qu'on a ces émotions. Et comme j'en parlais déjà, des fois, on se laisse emporter par nos émotions. Mais vous avez vu ce verset ? J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Est-ce que Dieu, il a de la haine pour quelqu'un? Vous savez que ce passage, si on le prend littéralement comme ça, on peut mal le comprendre, parce que dans la pensée juive, c'était une expression qui était très employée pour dire « j'ai préféré Jacob à Ésaü ». Mais est-ce que Dieu est le Dieu qui fait l'acception de personnes? Est-ce que Dieu est le Dieu qui fait du favoritisme? Dieu a des chouchous. Qui est le chouchou du Seigneur ce matin? Que l'on le sache au moins quand... Qui est le chouchou? Le Seigneur n'a pas de chouchou. Et s'il a préféré Jacob plutôt qu'Ésaü, c'est parce que Jacob, au bout d'un moment, parce qu'il a eu une vie assez mouvementée, mais au bout d'un moment, il a choisi de marcher en s'appuyant sur Dieu, en dépendant de Dieu. C'est pour ça qu'il a eu la bénédiction de Dieu. Pendant toute une nuit, il a combattu avec Dieu et il a été vainqueur au moment où il était le plus faible. Au moment où il boitait, c'est là qu'il a été vainqueur. Parce qu'il était, il pouvait plus appuyer sur ses propres forces. Il était obligé de s'appuyer sur Dieu. Ésaü, lui, il était fort, il avait une belle armée, il était sûrement plein de capacités, mais il n'a pas eu la faveur de Dieu. Parce qu'il n'a pas saisi la grâce de Dieu. Jacob l'a saisi. Et je pensais à cet exemple Souvent, j'emploie des exemples très simples pour nous montrer ce que Dieu veut faire dans nos vies. Un papa qui achète des cadeaux à ses deux enfants, sans aucune raison, parce qu'il veut leur faire plaisir. Est-ce qu'on est obligé d'attendre Noël ou l'anniversaire pour acheter des cadeaux à ses enfants? On a le droit de temps en temps de le faire pour rien, parce qu'on les aime. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et c'est justement une manifestation de la grâce, par exemple. Et il arrive à la maison, il va voir ses enfants dans leur chambre, et puis il se rend compte que leurs chambres, elles sont dans un bazar indescriptible. On dirait qu'on a mis une bombe et que la chambre, elle est comme ça. Et il leur dit, bon, je voudrais que vous puissiez ranger votre chambre. Il a les cadeaux dans les mains à l'arrière, mais il leur dit, je voudrais que vous rangiez votre chambre. Il y en a un qui se met à l'ouvrage, il range sa chambre à fond, il se souvient de sa maman qui lui a dit qu'il faut passer le balai, tout, il fait tout nickel. Et puis l'autre, il dit, bon, ben, de toute façon, ma chambre elle est comme ça, tant pis. À qui le papa, puisque vous avez compris la comparaison, à qui le papa va-t-il donner le cadeau? À celui qui range sa chambre, plutôt qu'à celui qui la laisse en désordre. Et souvent, on est là dans notre vie, le Seigneur nous dit, règle ton cœur, nettoie ta chambre intérieure, là. Et puis, on dit, oui, mais bon, tout le monde le fait, ou c'est comme ça, mais j'ai pas envie, c'est pas le bon moment, etc. Alors que le Seigneur, dans son dos, si on peut employer cette image, il a les cadeaux qu'il veut nous donner. Mais il va pas donner des cadeaux à quelqu'un qui est désobéissant. Comme un papa qui a prévu de donner son cadeau, il va pas donner son cadeau à quelqu'un qui refuse de faire sa volonté. Vous comprenez cette image? Le Seigneur nous aime, le Seigneur veut nous donner des choses, le Seigneur veut nous bénir. Dans ce livre de Malachie, à plusieurs reprises, il a parlé de la bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction de Dieu, elle n'est que pour ceux qui choisissent de marcher dans les vérités, dans cette vérité que Dieu nous aime. Et s'il m'aime, si je reçois cette vérité dans mon cœur, je peux pas rester immobile. Je suis obligé de répondre à cet amour. Je suis obligé de me donner. Le seul moyen de ranger notre cœur, c'est de croire au sacrifice de Jésus. C'est de laisser cette œuvre faire son travail dans nos vies. Au verset 11 du chapitre 2, il est dit ceci. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Je ne rentre pas dans les détails de qu'est-ce qui a fait que Judas a profané l'Éternel, mais je voudrais insister sur cette fin de ce verset. Ce qui est consacré, ce qu'aime Dieu, ce qu'aime l'Éternel. Dieu aime ce qui est saint. Dieu aime celui qui choisit de dire « Je veux, Seigneur, marcher dans la sainteté, je veux tendre vers la perfection. Je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait, si ce n'est dans le ciel. » Mais en tout cas sur la terre, je veux tendre vers la sainteté parce que je sais que c'est ça, Éternel, que tu aimes. Dieu n'aime pas quelqu'un qui reste dans le compromis, dans le péché et puis qui ne fait rien. Ça peut arriver de tomber, ça peut arriver de faillir. Attention, on n'est pas des surhommes. Mais on choisit à chaque fois de dire, Seigneur, pardonne-moi, que ton sang précieux puisse me donner encore le pardon, me laver, faire son œuvre dans mon cœur. En tout cas, si nous voulons être aimés de Dieu, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous avons fait un jour quand nous avons dit pardon pour notre péché, parce que nous avons compris qu'on était pécheurs et qu'on était rejetés de Dieu à cause de cela. Et quand on a dit, Seigneur, je crois en notre sacrifice, je crois que le sang est suffisant pour me laver entièrement. Tout mon passé peut être effacé en un instant, simplement par la foi. C'est exactement ce que nous devons faire. On ne doit pas dire comme ce peuple, en quoi nous as-tu aimé? Seigneur, prouve ton amour. Non, il a déjà fait son, il a déjà prouvé. Mais nous devons répondre. Nous devons dire, Seigneur, je choisis d'investir toute ma vie. Je veux t'aimer en retour comme tu le mérites. Deuxième vérité, ça se trouve au verset 6. Aimer Dieu, c'est pas suffisant. Je vais y revenir tout à l'heure. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse et infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous, de nous. C'est de vous que cela vient? Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Amen. C'est des passages un petit peu rudes, hein? Mais le peuple qui vivait à ce moment-là, il disait, mais en quoi est-ce que nous t'avons méprisé? En quoi est-ce que nous t'avons pas donné l'honneur qui te revient? Et justement, la vérité qui est là, et que Dieu est en train de faire ressortir par ce prophète Malachi, c'est que Dieu mérite l'honneur, Dieu mérite la révérence, Dieu mérite la crainte de notre cœur, la bonne crainte, ce saint respect de sa présence, ce saint respect de ses commandements dans notre vie, pas seulement quand on est le dimanche matin, mais tous les jours de notre vie, chaque seconde, on a la crainte de respecter les commandements du Seigneur parce qu'on a envie d'avoir son approbation. Et vous avez vu que dans ce verset 9, il parle, mais est-ce que Dieu pourra te recevoir favorablement? On sent que Dieu, il désire nous recevoir favorablement. Mais qu'il y a certaines choses qui sont dans nos cœurs, des fois, qui l'en empêchent. Même des gens qui prient, même des gens qui offrent des sacrifices, et c'est des images de tout ce qui, aujourd'hui, pourrait être translaté de manière moderne à ce qu'on apporte au Seigneur, le culte qu'on lui apporte, tout cela. Ces personnes le faisaient, mais c'est la façon de faire qui était mauvaise. Et je me souviens de ce témoignage que je lisais dans un livre qui parlait justement de la crainte de Dieu. Un pasteur qui était un évangéliste, et qui prêchait aux États-Unis, sûrement vous avez dû entendre ces histoires, aux États-Unis, il prêchait à des foules entières, il y avait des conversions, des gens qui venaient, et il y a une notoriété qui commençait à venir. Cet homme a été connu, cet homme a commencé à trafiquer en essayant de faire payer certaines choses, à avoir beaucoup d'argent, et il a commencé même à aller voir sa secrétaire, à avoir des relations avec elle, et il a commencé à vouloir la payer pour étouffer l'affaire. Il y a eu toute une malédiction qui est tombée sur cet homme, et finalement la justice l'a rattrapé parce qu'il y avait eu des trafics d'argent. Ils l'ont mis en prison. Et puis il y a un jeune pasteur qui allait le voir à un moment donné. Un jeune pasteur qui allait le voir en prison. Il lui a dit, mais frère, à quel moment vous êtes tombé du mauvais côté? Parce qu'au début ça avait bien commencé, c'était une bénédiction de Dieu, mais ça s'est transformé en une malédiction. Et le pasteur qui est là en prison, enfin l'ex-pasteur en prison, il dit, j'ai jamais arrêté d'aimer Dieu. Mais le moment où ça a basculé, c'est quand j'ai arrêté d'avoir la crainte de Dieu. Même dans ma prison, j'aime Dieu encore. Même quand j'étais dans le péché, j'aimais Dieu. Mais j'ai arrêté d'avoir la crainte de Dieu. Ce respect de la présence de Dieu. Dieu mérite la crainte. Et souvent, et dans notre génération, et dans notre pays de France en particulièrement, tout est fait pour qu'on n'ait pas la crainte de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, on va lire un verset dans Malachi encore, chapitre 3, verset 5, qui nous montre qu'est-ce que c'est de ne pas avoir la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça entraîne? Comment ça se voit? C'est des choses très concrètes. Dans Malachi, chapitre 3, verset 5, Dieu dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je m'hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » C'est comme si Dieu donnait une liste de choses, et la liste n'est pas exhaustive, de toutes les choses qui montrent que ces personnes n'avaient pas la crainte de Dieu. Première chose que nous voyons, et vous allez voir que quand on lit ces choses, on a l'impression de lire la description de notre pays de France. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Les enchanteurs, c'était ceux qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient les choses des ténèbres. Et nous sommes dans une société où nous mettons, enfin nous, c'est pas nous, hein, mais vous comprenez, dans notre société, c'est mis en avant toutes les médiums, tous les voyants, toutes les choses comme ça. Même dans les hôpitaux, des fois, on vous préconise d'aller voir un chasseur de feu. Toutes ces choses qui sont ténébreuses, toutes ces choses qui sont pas inspirées de Dieu, elles sont mises en avant. Et par contre, tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne la foi, tout ce qui concerne toutes ces choses, la Bible, les valeurs morales qui sont dans la parole, l'amour du prochain, tout cela est mis en retrait. Ça, c'est notre société d'aujourd'hui. Quand on voit la suite, les adultères, ce sont cette liberté sexuelle dont apparemment la France en est le symbole. Et il y en a, quelqu'un m'a donné un texte qui parlait de ça, comme quoi la France était merveilleuse parce qu'il y avait la liberté sexuelle, parce que les gens, ils pouvaient coucher les uns avec les autres, il y avait une liberté comme ça, c'était merveilleux. Voilà ce qui était dit dans les journaux. Et qu'est-ce que vous en pensez devant Dieu? Est-ce que ça mène la faveur? Bien sûr que non. Le Seigneur, il a dit, et je le répète, que le mariage soit honoré de tous. Il a dit que nous devons marcher avec fidélité, avec vérité et dans cet amour pour notre épouse, pour notre mari, etc. Et nous ne devons pas céder à ce qui est autour de nous. Nous devons au contraire être de ceux qui ont la crainte. Ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Ceux qui jurent faussement, pardon, avant. Faussement, ça veut dire mentir. Combien de personnes autour de nous mentent pour y trouver un intérêt quelconque? Combien de personnes ne disent pas la vérité? Mentir, vous savez, c'est pas seulement dire un mensonge, c'est des fois ne pas dire quelque chose qu'on sait qu'il y aurait. Et combien de personnes font ça? Et pensent après que Dieu va pouvoir leur être favorable. Mais c'est pas possible. Ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Combien de personnes trafiquent avec l'argent, déclarent de fausses choses pour obtenir beaucoup plus? Combien de personnes font toutes sortes de choses? On le voit autour de nous, presque toutes les semaines, j'ai des témoignages de personnes qui font ça. Ou on le voit à la télévision, ou on voit des hommes politiques qui finalement sont rattrapés par la justice à un moment donné. Notre pays de France, et pour pas dire tout le monde entier, est rempli de ces personnes qui jurent faussement, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin. Vous savez que le mot opprimé, c'est le même que ceux qui retiennent le salaire. Ça veut dire que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas tous de ceux qui allaient opprimer une veuve ou allaient opprimer un orphelin. Mais en fait, c'est de pas donner ce qu'ils méritent, ces personnes. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Qu'est-ce que méritent la veuve et l'orphelin? Dans la loi, c'était dit qu'il fallait prendre soin de ces personnes. Dans l'évangile, c'est dit la même chose. La religion pure et sans tache, ça consiste à se préserver des souillures du monde et à s'occuper, à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Quand je ne donne pas à ces personnes qui sont veuves ou orphelines ou qui sont dans une situation un petit peu semblable, quand je ne donne pas le soin, je montre que j'ai pas la crainte de Dieu. Quand je leur donne pas ce qu'elles méritent, quand on traverse une situation difficile, est-ce qu'on ne mérite pas la compassion? La compassion de notre frère, de notre sœur. Bien sûr. Et je sais que plusieurs au milieu de nous ont ce désir d'aider ceux qui les entourent pour les aider, pour prier avec eux. Mais combien c'est important d'avoir ces relations profondes, spirituelles, véritables, cet amour qui se manifeste de manière concrète. Ah, tu passes par là. L'épreuve, je vais venir prier avec toi. Je vais pas te faire un grand discours, je sais pas quoi dire. Mais je vais être là à côté de toi pour prier. Est-ce que ça, c'est pas montrer la crainte qu'on a de Dieu? Je crois que oui. Qui font tort à l'étranger? Ah, c'est sûr que, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a peut-être des sentiments qui commencent à gronder dans nos cœurs, ça, par rapport à des situations, mais on ne veut pas se laisser piéger, parce que quelqu'un qui fait du mal à l'étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Nous voulons être plein d'amour, plein de bonté pour tous les hommes, plein de douceur. Ça ne veut pas dire qu'on va sauter au cou de n'importe qui, ça veut dire qu'on va au moins prier pour tous les hommes. Aimez même vos ennemis, nous dit Jésus. Voilà ce que c'est d'avoir la crainte de Dieu. Voilà ce que c'est. Et ce peuple, malheureusement, il était là, et lui, peut-être qu'il avait en tout cas ses travers, mais pour lui, il pensait que ça c'était suffisant que d'aller au temple et de faire comme si de rien n'était, et puis en dehors, il faisait toutes ces choses. Mais c'est pas suffisant devant le Seigneur. Le Seigneur demande que notre cœur soit tout entier pour lui. Au verset 6, je reprends ce passage. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Et quand on voit ce qu'ils faisaient, ces personnes, ils offraient des sacrifices. Est-ce que c'était mal d'offrir des sacrifices? Ben, c'est ce que la loi demandait. Ils offraient des sacrifices. Par contre, c'est pas dans ce qu'ils faisaient que c'était mauvais. C'était dans la façon de faire que c'était mauvais. Parce qu'ils offraient des sacrifices à Dieu, d'accord? Mais ils offraient les brebis qui étaient galeuses, les brebis qui étaient boiteuses, les brebis qui étaient aveugles, qui avaient un problème. Pourtant, alors j'ai compté 38 fois dans la loi, les 5 premiers livres de la Bible, il est écrit d'offrir un animal sans défaut. 38 fois! Je pense que c'est assez clair quand même. Est-ce qu'il aurait fallu 39 pour que les gens disent « Ah, mais s'il y avait eu 39, j'aurais compris ». Non, 38 fois c'est suffisant, même une fois c'est suffisant. Mais le Seigneur a pris le soin de répéter 38 fois qu'il fallait offrir un animal sans défaut. Cette image du Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même sans péché pour le salut des hommes. Et c'était tellement important cette image. Parce que si j'offrais quelque chose qui était boiteux, qui avait une infirmité, alors je ne pouvais pas être pardonné, je n'obéissais pas à la loi. Mépriser le nom de Dieu, c'est agir de façon moins respectueuse envers Dieu qu'envers nous-mêmes. Je préfère faire selon ma volonté, selon ce que je pense. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé quand il est dit cette comparaison, offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? Il y a cette vérité que quand on veut manifester notre crainte, c'est intéressant de réfléchir de manière humaine, de manière actuelle, concrète, de prendre un exemple qui nous touche. Et je vous pose cette question, par exemple. Est-ce que je me permets d'arriver en retard quand je vais au travail ? Pour mon patron. Comprenez ? Je me permets pour mon patron d'arriver en retard. Et à l'église. Alors ce matin, je suis pas là pour vous dire, toi, t'es arrivé en retard. Je vous inquiétez pas, je fais pas une liste qui arrive à quelle heure. Hein. Ça regarde chacun. Mais c'est ce que je veux vous amener, c'est à réfléchir. Des fois, on est plus soucieux d'obéir à notre patron qu'obéir à Dieu. Vous comprenez? Est-ce que je dis à mon prof ce qu'il doit m'enseigner? Est-ce que c'est moi qui vais voir? Bon, monsieur le prof, ce matin, vous vous asseyez. C'est moi qui vais vous donner la leçon ce matin. Et des fois, on agit comme ça envers le Seigneur. Et c'est intéressant de transposer, vous voyez, ces choses-là, de manière simple. Est-ce que c'est moi qui choisis les règles de sécurité qui me plaisent, le code de la route, je prends que ce qui m'intéresse, et par contre, le reste, je le fais à ma tête. Ou est-ce qu'on est obligé, parce que c'est comme ça, parce qu'on a la crainte du policier, mais dans le bon sens. J'espère que vous n'avez pas peur du policier, parce que si vous avez peur du policier, ça veut dire que vous faites des choses louches. Quand on a la crainte, mais la bonne crainte, le fait de, le souci de respecter, alors on fait attention. Et des fois, on est soucieux par rapport au code de la route, et par rapport au code de la vie, on est moins soucieux. Et c'est une manifestation de notre crainte que de dire, Seigneur, je veux. Je choisis d'agir envers toi, encore plus que envers mon patron, encore plus qu'envers mon prof, encore plus qu'envers les personnes qui ont une certaine autorité sur moi. Seigneur, j'ai compris que toi, tu es encore plus grand que tout cela. Mépriser le nom de Dieu, c'est justement agir de façon moins respectueuse envers Dieu qu'envers ces personnes qui nous entourent. C'est normal de les respecter, mais c'est encore plus normal de respecter Dieu, d'avoir cette crainte et cet honneur qui revient au Seigneur. Vous avez vu ce qu'il a dit ? C'est de vous, au verset 9, c'est de vous que cela vient. Dieu vous recevra-t-il favorablement ? Les choses qui viennent de nous, Dieu ne peut pas les recevoir. C'est ça qu'il est dit. Tout ce qui vient de notre propre fond, Dieu ne peut pas le recevoir. À moins que ce soit un cœur qui dit, Seigneur, je peux rien faire sans ta présence, viens m'aider, au secours. Mais ça, il peut le recevoir, vous inquiétez pas. Mais quand c'est, Seigneur, je vais te montrer comment il faut faire. Seigneur, je vais t'aider. Ça marche pas. Dieu peut pas nous recevoir favorablement. Et la vraie crainte du Seigneur, c'est de dire, Seigneur, je m'attends à toi. Oui, c'est difficile. Oui, c'est dur. Oui, il y a des larmes. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des blessures. Oui, il y a des moqueries. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je crois que tu es celui qui est au-delà de tout cela. Mais je veux être celui qui, pas qui dit, en quoi je t'ai méprisé, Seigneur, qui fait comme si de rien n'était, mais celui qui supplie, Seigneur, aie pitié de moi. Si je t'ai méprisé dans quoi que ce soit, aide-moi. Aide-moi à te manifester l'honneur qui te revient. Je veux obéir à ta parole. Regardez ce qu'il est dit par la suite, au verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est déjà une prophétie de ce qui allait s'accomplir quand les Juifs allaient rejeter le salut de Dieu et que Dieu allait ouvrir le salut à toutes les nations, et nous en sommes au bénéfice ce matin si nous sommes là. Si à Moissac il peut y avoir une église où on prêche l'évangile, c'est parce que Dieu a choisi de manifester son salut à toutes les nations. Et ce matin, c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas brûlé de l'encens, mais nous avons élevé notre louange devant le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui est particulier dans ce texte qui nous montre que quand Dieu ne trouve pas quelqu'un qui est disposé pour lui obéir, Dieu va chercher quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui est indispensable dans le royaume de Dieu. Personne n'est indispensable. Personne. Parce que si je refuse d'obéir, de servir le Seigneur, si je refuse de l'écouter, de changer dans ce qu'il me demande, alors le Seigneur va appeler quelqu'un d'autre. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Et c'est pour cela que nous devons réagir de la bonne façon. Le problème le troisième problème qu'il y a dans ce passage, c'est que Dieu mérite d'être servi avec ferveur, mais les personnes qui le servaient, les sacrificateurs, ils le faisaient pas avec ferveur du tout. Regardez ce qu'il est dit juste après. Donc c'est le verset 12. Vous la profanez en disant la table de l'Éternel est souillée. Ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Et vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de votre main? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Le terme qui est employé, c'est mon nom est craint parmi les nations. Vous avez vu comment ils réagissent, ces personnes? Pourtant, est-ce que c'est pas leur travail? Les sacrificateurs. Qui était chargé de faire les sacrifices? C'était les sacrificateurs. Et pourtant, quand ils arrivent pour faire le sacrifice, ils disent, oh là là, quelle fatigue. Oh là 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 là, encore il faut y aller. Vous imaginez? Quand vous allez au travail, que vous partez dans cet état d'esprit. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'ils faisaient le reste du temps alors? C'était leur travail, c'était leur job, il fallait qu'ils s'y emploient. Mais Dieu voyait que la façon dont ils faisaient, ils le faisaient du coup à l'arrache. Ils le faisaient comme ça vient. Donc il y avait une brebis, eux qui devaient être les garants de la loi, qui devaient annoncer la parole et enseigner les personnes. Ils prenaient les brebis n'importe lesquelles, même s'il avait une patte cassée ou elle était borne, c'est pas grave, allez. Plus vite ça sera fait, plus vite je serai devant la télé chez moi. Enfin, j'exagère, hein. Vous avez compris, c'est cet état d'esprit. Alors que Dieu mérite qu'on l'aime, Dieu mérite notre crainte, mais Dieu mérite qu'on le serve de tout notre cœur. Et il vaut mieux pas servir le Seigneur et puis le laisser travailler notre cœur pour nous remettre d'aplomb que de le servir avec un cœur qui est totalement dans cet état d'esprit. Ah, quelle fatigue de servir le Seigneur. Quelle fatigue d'aller à l'église. Quelle fatigue d'aller à la réunion de prière. Moi, j'y suis allé des fois, aux réunions de prière, dans cet état d'esprit. Quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église, je disais, bon, mais ça met du temps, l'horloge, elle tourne pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, dès que le amen final retentissait, avec ma grand-mère, on faisait la course pour arriver en premier à la sortie, et puis on partait les premiers. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais est-ce que j'étais bien spirituellement? Non. J'étais loin de Dieu. Est-ce que je vivais des choses? Non. Les expériences, j'en faisais aucune à ce moment-là. Parce que c'était pas ce que Dieu voulait. Dieu peut pas agréer un sacrifice comme cela. Dieu sait quel est l'état de notre cœur. Dieu sait aussi qu'on peut être quelqu'un qui trompe les personnes qui l'entourent, qui donne une apparence dans ce sens. Dieu sait, par exemple, si on est fatigué de la semaine et qu'on peut pas venir à la réunion, c'est pas un péché que de pas venir à une réunion parce qu'on est fatigué, le travail, il y a toutes sortes de choses qui ont fait, la maladie, peu importe, il y a des raisons qui font. Mais là où on est, on dit, Seigneur, tu vois, j'aurais aimé y aller, mais j'ai pas pu y aller. Mais Dieu sait qu'on est des fois fatigué qu'au moment d'aller à la réunion. Ça me rappelle quelqu'un qui voulait vraiment faire des progrès avec le Seigneur, il avait une vie compliquée. Et il se disait, je vais prendre plus de temps à lire la parole. Alors il était dans sa maison, il allait sur Internet, il regardait la télévision, tout allait bien. Puis le moment où il ouvrait la Bible, il avait mal à la tête. À chaque fois qu'il ouvrait la Bible, il commençait à avoir mal à la tête. Et je lui ai dit, mais il faut que tu continues. Parce que c'est l'ennemi qui veut t'empêcher, parce que c'est une bénédiction que de lire la parole de Dieu. Mais si, c'est sûr, on commence à ouvrir la Bible et on a mal à la tête, et qu'on se dit, oh, ben, si c'est venu de Dieu, j'aurais pas mal à la tête, eh ben, on n'a pas tout compris. On a besoin de persévérer, d'aller plus loin. Et que, par exemple, ça peut arriver qu'au moment où on doit aller à l'église, on est totalement fatigué. Ça peut arriver. Mais parce qu'on sait que le Seigneur va nous bénir. On sait qu'on va passer des moments dans la communion fraternelle, on va voir le frère, la sœur, on va pouvoir partager certaines choses, ça va nous faire du bien. Combien de fois, moi, je suis allé à l'église, j'étais fatigué. La réunion de jeunesse à Aix-en-Provence, c'était le vendredi soir à 19h. Et je sortais de prépa toute la semaine, je finissais à 18h, j'allais directement à l'église à pied. J'étais claqué. Et combien de fois je suis ressorti de ce lieu béni de Dieu, renouvelé. Et si j'avais eu mal à la tête en arrivant, j'étais totalement léger, et presque je volais parce que j'étais béni par le Seigneur, parce que j'avais mis ma foi en action. Seigneur, je vais, c'est pour toi que je le fais, je le fais pas pour les autres, je fais pas pour que les gens me prennent en photo. Vous inquiétez pas non plus, je prends pas en photo les personnes qui viennent le dimanche. C'est l'affaire du Seigneur, ça regarde le Seigneur, ni les personnes qui viennent dans la semaine. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse quand même. Mais vous comprenez. Ça intéresse surtout le Seigneur. Mais je veux pas, et je ne voudrais pas qu'on puisse se laisser piéger en disant, ah ben, la réunion me fatigue. Moi, j'ai pris la réunion, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre exemple. Dieu sait si on a beaucoup de temps pour tout ce qui nous intéresse et très peu de temps pour lire la Bible ou pour prier. Il y a un autre domaine, je vais terminer avec ça. Dans Malachie, chapitre 3, un autre domaine où le peuple trompé. Et il s'est dit, noir sur blanc, le Seigneur lui-même qui le dit, au verset 8, chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi nous t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Je voudrais pas entrer dans ce débat-là, mais c'était simplement pour le lire, pour vous montrer qu'il y a tellement de façons différentes de tromper Dieu. Mais Dieu sait ce qu'on fait. Vous savez, c'est pas dans ce dont il est question, il est pas question qu'il faut que vous donniez beaucoup plus à l'église, c'est pas ça. Quand Jésus s'est assis devant le temple et qu'il regardait les personnes qui donnaient, il est dit qu'il regardait la façon, la manière dont il donnait. Et vous vous souvenez qui c'est qui a donné le plus aux yeux du Seigneur? La pauvre veuve qui a donné quelques pièces. Les riches qui étaient là, ils faisaient sonner, ils montraient sûrement leur chèque. Il y a des églises, malheureusement, j'ai entendu des choses terribles où les gens, ils montraient les billets qu'ils allaient donner dans l'offrande. Quelque chose de fou, là. Alors que le Seigneur a dit que ta main droite ne sache pas ce que donne ta main gauche. Et quand on donnait beaucoup, on les met en avant, ils viennent s'asseoir sur les premiers rangs. C'est quelque chose de fou qui se passe. On est dans un monde, et même dans l'apostasie qui rentre dans les églises, mais le Seigneur, lui, regarde à la manière dont on donne. J'ai pas grand chose, Seigneur, mais je te donne ça. Parce que c'est de tout mon cœur que je le fais. Parce que je veux que ton royaume avance. Parce que je crois que si j'ai cette foi-là qui se manifeste de cette manière, toi, tu as promis la bénédiction. Par contre, vous avez vu, il y a toujours le choix. Le trompeur, il hérite la malédiction. Celui qui obéit, il hérite la bénédiction. Les écluses des cieux, c'est merveilleux quand on sait que sur notre vie, peu importe les circonstances de notre société, sur notre vie, le Seigneur est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Le Seigneur est capable de faire son œuvre et de nous bénir, d'amener sa faveur parce qu'on est de ceux qui choisissent d'obéir.